et Yannick Marceau. On refait le monde pendant 30 minutes.
Hey, ça, c'est un beau Willy, mon gars.
Voici le Pit Stop avec Gravel et Marceau.
Ouais, c'est votre rendez-vous de l'heure du lunch. À chaque fois, je vois le Twitch monter comme ça n'a pas de bon sens. Je sais pas si c'est lui qui attire ces regards-là ou encore...
Sex appeal!
Ma co-animatrice. Ah, oh, t'es en train de dire qu'elle a beaucoup de sex appeal, Jacinthe Perrin?
Je suis définitivement la personne qui en a le moins autour de cette table. Constamment, à chaque jour.
Franchement!
Je le porte bien, là. Je suis très à l'aise avec ça.
Franchement. Mais t'as mis ton chandail soleil, un peu comme la température à l'extérieur. Je sais pas si t'es pensé, mais chose certaine, aujourd'hui, c'est doux, c'est beau, c'est le fun. À Québec, c'est moins 12 en ce moment. Le max va être à moins 9 pour la journée. Le minimum à moins 22. C'est rien comparativement à ce qu'on a vécu au courant des derniers jours. Mais encore là, je veux dire, on est au Québec. C'est le fun. Tout le monde va bien. On a pris soin les uns les autres, j'espère, le plus possible dans ce qui concerne les situations d'itinérance. Mais on aura un petit peu moins d'inquiétude à avoir pour les prochains jours, là. Samedi, demain, c'est copier-coller sur aujourd'hui. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, de la neige avec des températures maximales de moins 4.
Mais là, on a un genre de vrai bordé. On annonce-tu encore genre des 10 cm pour lundi et mardi?
Absolument. Ah. Ça va vraiment être le fun, ça, pour ceux qui ont appris à apprécier l'hiver en ayant des sports. Je sais pas si t'en fais un peu, toi.
Je suis les sports de mes garçons pas mal plus. Ma vie est une patinoire présentement.
À part les regarder, t'en pratiques-tu?
Pas vraiment. Je faisais du ski, je faisais de la raquette, je faisais du ski alpin. T'as remarqué que tout ça est au passé. on dirait que dans les dernières années, j'ai appris à détester l'hiver comme je ne l'ai jamais détesté dans ma vie. Mais là, on fréquente les arénas, on fréquente les patinoires extérieures. Vois-tu, là, on est dans la saison des tournois, ce qui fait en sorte qu'hier, j'étais dans le coin de Pont-Rouge avec mon grand garçon. J'y retourne ce soir, tout de suite après l'émission. Ouais, puis la semaine prochaine, on est à Plessisville avec des matchs des fois à 7h50 le matin.
Ah, je trouve tellement bon. Ma soeur va à la piscine avec ma fille à 8h le dimanche, là, puis je trouve que c'est beaucoup d'amour.
Ben, si j'aimais pas le hockey, je serais très malheureux, mais j'aime ça. J'haïs pas ça, puis... Je suis pas un gars qui chill avec les autres parents avec une clochette puis une trompette.
On est surpris.
Tu l'auras deviné.
T'as pas eu le gobelet qui siffle à Noël, par exemple?
J'ai eu un Loud Cup.
L'as-tu essayé?
Je l'ai utilisé pour un match. Puis je me sentais tellement mal. Mon gars a dit, t'as-tu utilisé ta trompette? J'ai dit, oui, j'ai pas arrêté. Il dit, je l'ai pas entendu. Il dit, j'entends toutes les trompettes sauf la tienne, papa. J'imagine que je soufflais gêné, là, genre, fin, fin, fin.
Puis ton fils, lui, devait être genre...
Ouais, là, oh, et lui, sans gêne. Mais je suis très expressif pendant un match de hockey.
Vocalement?
Oui, c'est okay. Pour ça peut-être que je me place dans mon coin de façon générale. Ça me permet de réagir. Je suis comme ça d'un spectacle aussi. Tu sais, d'un spectacle, moi, j'aime ça, drummer dans le vide, triper ma vie, puis tout ça, mais... Je veux pas déranger les autres, puis je veux être dans ma bulle.
Ouais,
fait que souvent.
Surtout, probablement, le genre de personne, je veux pas te déranger les autres. Je veux pas que les autres me voient triper de même parce que c'est mon jardin secret.
Ah, ça me dérange, moi, mais non, moi, c'est surtout que j'ai la grandeur pour me reculer un peu puis être tranquille. J'aime pas la chaleur, j'aime pas être collé sur le monde. Puis à l'aréna, c'est un peu pareil. Je suis très réactif, très émotif. Je crie pas après les arbitres, je crie pas après les joueurs, j'encourage mon grand, mais j'aime ça, par exemple. J'aime ça.
T'es dedans, là.
Oui.
Toi, Jacinthe, est-ce que t'as eu à vivre ce genre de contexte-là que Denis décrit, mettons, avec tes enfants? Est-ce qu'ils ont pratiqué des sports qui t'ont fait te lever à 5 h le matin le dimanche?
Pas de bonheur comme le hockey. Le hockey, là, c'est franchement le plus exigeant, je pense, pour
cruel.
Les parents.
Oui. Oui.
J'aimerais ça que mes enfants ne jouent jamais. Si jamais j'ai des enfants, je vais les laisser choisir. Mais moi, je ne viens pas d'une famille où ça a été quotidien. Fait qu'imaginez comment je vais tomber de haut aussi. Ben je vais les aimer inconditionnellement.
C'est toute une vie que vous avez. En plus, plus ils évoluent dans leur sport, plus ils se promènent, plus les tournois sont loin, plus ça demande des nuitées à l'hôtel, des levées très tôt. C'est l'ouvrage.
Il n'y a rien là parce que moi, j'en ai juste un qui joue au hockey.
Ouais.
Mais je parle avec des parents puis des entraîneurs qui, des fois, c'est deux enfants.
Yannick, entre autres.
Oui, puis trois enfants même, des fois. L'horaire devient complètement fou.
Ben oui. Les monoparentales, là,
ben
à un
oui.
moment donné, ils n'ont même pas chacun leur fin de semaine, finalement, parce qu'il y en a un qui part avec l'aîné en tournoi, puis l'autre garde le plus jeune pour l'autre tournoi dans une autre ville. C'est quelque chose.
Toi, t'étais seule avec tes trois enfants en plus.
Ouais. Moi, j'ai pas eu le hockey là, dans ma vie, mais j'en ai vu des parents qui géraient ça. Ben, le soccer, mais le soccer, c'est plus...
C'est plus commode.
Il n'y a rien de comparable.
C'est parce que le soccer a un horaire plus stable.
Oui.
Par exemple, si tu joues le jeudi, tu vas jouer le jeudi tout l'été. Alors que le hockey, il n'y a aucune commune mesure, vois-tu?
Ça dépend ce que tu gagnes comme match puis tout, là.
Ah, puis c'est même pas ça, c'est que j'ai l'impression qu'il y a tellement peu d'heures de glace disponibles pour la quantité d'équipes et de joueurs qu'on se ramasse, par exemple. J'ai jamais eu de match en semaine avant cette année. Cette année, j'ai des matchs le mardi soir, j'ai des matchs le vendredi soir.
Mais c'est-tu parce qu'on a commencé à démocratiser le fait que c'est pas grave si on manque une période à l'école ou autre? Parce que j'avais l'impression que ça se faisait pas aussi par cette rigidité scolaire-là qu'on a eue pendant longtemps parce que c'était la priorité sans qu'on se questionne.
Ben, je te prends l'exemple du tournoi de Plessisville de la semaine prochaine. Si les flots manquent pas d'école, il n'y a pas d'équipe sur la glace. Donc, nous autres, les parents, on a comme un choix à faire. Là. Choix qui n'est pas fait chez nous encore, d'ailleurs.
tu te questionnes encore?
Non, mais moi, ça me prend un comportement impeccable. Je suis tannant avec ça, j'ai averti mon grand, j'ai dit, t'es le capitaine de ton équipe, moi, je veux voir un capitaine à l'école, je veux voir un capitaine dans les résultats scolaires. Si on manque de l'école, c'est que ça va bien à l'école. Si ça va pas bien à l'école, l'école redevient la priorité, puis là, on va peut-être manquer un match de tournoi. C'est arrivé l'année passée.
Bravo de l'avoir tenu.
Oh mon Dieu, j'avais l'impression
facile, émotivement.
J'avais l'impression d'être le père le plus horrible de la planète. Là. Puis il y a des parents qui m'ont dit ce que tu as fait, j'aurais pas été capable de le faire.
Pas capable de te confier ça.
Puis encore aujourd'hui, je l'ai un peu sur le cœur pour vrai parce que c'est l'endroit où mon gars a le plus de plaisir sur la planète. C'est tannant de dire faites quelque chose qui fait en sorte que la conséquence, c'est ça.
Et en même temps, ça sera pas, tu ne sortiras pas les ordures cette semaine?
Non,
ça
non,
serait
non,
pas une conséquence?
Je te donne l'exemple. L'année passée, il savait que ça prenait des bons résultats scolaires pour aller à son tournoi.
Ouais.
Il avait eu un mauvais résultat scolaire. Il l'avait caché.
Oh!
Il l'avait caché.
Parce que la conséquence avait été évoquée d'avance. Fait qu'il savait que la corrélation... Puis son père allait tenir la conséquence.
Puis j'ai dit, un mauvais résultat, on peut travailler avec, on peut travailler autour, on peut se reprendre. Le mensonge... C'est plus tough.
Ben
on fait qu'il a été pénalisé.
À cause du mensonge.
Ah, ouais.
Ouais, ouais. Fait que ça a fait.
Mais c'est bon que.
Il y avait... ben c'est bon. Écoute.
Dire, c'est bon. Moi, je trouve ça bon.
Je sais pas. Il y a pas de. Je pense pas qu'il y ait de bonnes recettes universelles, mais.
On a la nôtre. Selon comment on a été élevé aussi.
Tu sais, j'ai l'impression que je suis un papa qui donne beaucoup de permissions. Je suis un papa gâteau. Fait qu'une fois de temps en temps, faut comme que je mette mon pied à terre pour pas me faire passer sur le corps quand ils vont être ados, là.
L'aurais-tu tenu dans sa interve, toi?
Ah, c'est tough.
C'est sûr que tu as eu des situations comme ça où tu as dû sévir. Pis...
Ben, on a tous déjà tenu des conséquences et on a tous aussi cédé puis pas avoir tenu des conséquences. Puis il y a des bons côtés, des mauvais côtés, peu importe la direction qu'on
t'as-tu
prend.
Un souvenir?
c'est parce que les enfants, parfois, oublient la raison pour laquelle ils ont eu la conséquence et ça les marque beaucoup, la conséquence comme telle. Ils font pas nécessairement le lien. On dit que c'est pour qu'ils fassent le lien, mais ils le font pas toujours à long terme. Là, l'adolescence, plus tard, moi, je me fais reprocher. Te souviens-tu la fois que tu m'as fait telle affaire? Oui, mais c'était une conséquence, tu sais. Non, mais moi, je m'en souviens pas vraiment. Je me souviens de la conséquence qui était, selon eux, complètement inhumaine.
Fait
mais
là, tu te dis, est-ce que j'ai sévi pour rien? Parce qu'au final, c'était même pas relié dans leur tête, mais en même temps, toi, tu le sais que c'était juste une application parentale. Hey, c'est pas facile. Quelqu'un qui nous dit, ma mère m'a avoué lorsqu'on était jeune qu'elle jetait les pamphlets de hockey ou de tout sport qui avait ce genre de discipline-là parentale pour être sûr qu'on n'aille pas à l'aréna. N'importe quel sport, sauf se lever à 5 heures du matin pour aller se geler.
Je comprends.
Les fesses dans l'aréna.
Je comprends. C'est un choix parental. Puis je comprends aussi les préjugés qui peuvent arriver avec le sport parce que quand on parle de sport dans l'actualité puis des nouvelles, évidemment, on focus sur le négatif. T'sais, on focus sur le parent qui a pogné les mouches. On focus sur les flots de 14 ans qui se sont battus, l'arbitre qui a été invectivé, puis ainsi de suite. Je veux dire, moi, ça fait trois ans que je suis un papa de sport. Puis tu sais, les épisodes tristes ou les épisodes négatifs, on les compte sur les doigts d'une main. Par contre, moi, j'ai vu mon grand changer. Mon grand, c'est un gars gêné. Il est comme son papa. Puis là, il est dans son équipe de hockey, puis je le vois développer un esprit d'équipe. Je le vois développer une confiance en lui au point de caler des meetings à la glace puis de dire « Hey, OK, là, on profite du temps d'arrêt, puis là, on va faire ci, puis on va faire ça. »
Développer des qualités sociales
oui,
aussi,
oui,
des
oui,
compétences
beaucoup.
Sociales, parce que je sais que ça a été peut-être un peu plus ardu parce qu'il te ressemble beaucoup.
Oui.
Puis ça, moi, ça m'avait vraiment... subjuguée quand tu avais dit qu'il était rendu capitaine de l'équipe parce que je me suis dit, crime, la personne qui a eu cette vision-là, là, c'est pas à quel point ça risque de changer. Puis on s'en était pas parlé, toi et moi, mais ma réflexion personnelle, c'est ça. Il sait pas à quel point ça. Ou peut-être qu'il sait que c'est calculé, que ça peut changer le reste de la vie de ton fils juste en ayant mis un C sur son chandail.
Il y a un coach qui croit beaucoup en lui, en son talent puis ses capacités, puis ça, ça n'a pas de prix, puis on voit la différence. On ne vous salue pas assez, by the way. Là.
Ouais.
Tous les entraîneurs, tous les parents, tous ceux qui font les choses par passion puis qui les font comme il faut, là, bravo, bravo, bravo. Évidemment, c'est pas tout le monde. T'sais, moi, de voir une équipe dans le C ou même dans le B qui, en troisième période, fait juste jouer ses meilleurs joueurs. Je veux dire, vous jouez pas pour la Coupe Stanley. Là, on est là pour s'amuser. Le hockey, c'est encore un jeu, c'est encore le fun.
Vous apprenez pas le développement personnel à ces enfants-là non plus.
Moi, j'ai pas vécu ça, mais je l'ai vu, par exemple, puis je trouve ça triste. J'ai eu la chance de tomber sur des entraîneurs extraordinaires qui font en sorte que les enfants, même quand ils sont pas sûrs, même quand ils vivent des défaites, quand ils se font éliminer d'un tournoi, ils apprennent des choses. Ils vivent en équipe, ils gagnent en équipe, ils perdent en équipe. Ça, c'est des notions que tu acquiers dans le sport puis qui sont peut-être plus durs à acquérir dans le reste de ta vie. Puis pour bien du monde, qui sont peut-être un petit peu plus introspectifs, qui ont plus de difficultés à l'école, je pense qu'ils vont chercher beaucoup de motivation puis beaucoup de notions sociales importantes là-dedans. Faut en parler du positif une fois de temps en temps.
Ça, c'en est. Ouais, t'es-tu senti, t'sais, comme père, mettons, d'un enfant qui est amené à développer tout ça, à avoir le C sur son chandail, mal par rapport aux autres enfants, des fois? Est-ce que c'est parce que je sens pas qu'il y a du favoritisme dans l'équipe. Je pense que ça a été servi parce que ton enfant le méritait. Mais des fois, il y en a du favoritisme dans certaines équipes. Tu l'as évoqué, que tu as déjà vu des affaires du genre « on fait juste jouer nos meilleurs joueurs ». Est-ce que ça, tu as eu un sentiment de culpabilité qui devrait pas exister, mais qui est là, des fois, itinérant?
Non, parce que ça fait 2 ans qu'il me dit « hey, j'aimerais ça être le capitaine de mon équipe ». L'année passée, il l'a pas été. Puis cette année, il l'a été. Puis je me dis « bon, ben il a appris les deux. Il a appris la déception de ne pas être capitaine, mais en même temps, il a gardé cet espoir-là. » Puis cette année, ben quand le coach m'a dit « hey, on a parlé avec les joueurs de l'équipe puis tout ça, puis je pense que ça va être ton gars qui va être capitaine cette année. » Puis j'ai assisté au petit meeting avec l'entraîneur où mon gars se l'est fait annoncer. Ben là, papa a pleuré, évidemment, parce que j'étais une grosse éponge, là. Mais, tu sais, j'étais allé me cacher dans le corridor un peu, mais j'ai juste...
Et le coach a consulté les jeunes.
Oui.
Ça, je veux juste surligner ce que tu as dit.
Mais je suis très égoïste là-dessus, là. Je pensais juste à la fierté de voir mon gars avec le C, parce que... Pas parce que je voulais qu'il soit le capitaine de son équipe, mais parce que lui, il voulait beaucoup, puis c'était un objectif qu'il avait. Puis je le voyais se comporter dans les entraînements pour, justement... Naturellement, il y a ça. Tu sais, c'est le gars qui va ramasser rondelles. C'est le gars qui va être le premier en avant quand le coach va demander. Il est comme ça au soccer, il est comme ça au hockey. Puis je suis en admiration parce que moi, c'est des qualités que j'avais peut-être pas. On est des lâches un peu là, chez les gravelles.
L'élève dépasse le maître.
C'est parce que moi, je ramassais pas mes rondelles. T'sais. Puis j'étais le premier parti aussi. Puis j'étais le dernier arrivé quand c'était les meetings.
Fait ça s'est pas trop corrigé. Hein, quand non. On voit ça sur le...
mais c'est toujours le fun de voir nos enfants nous surpasser ou nous surprendre, de dire « OK, oui, mes enfants me ressemblent beaucoup, mais j'en ai un qui est capable d'aller dans la rue puis parler à n'importe qui. Il va aller au parc 5 minutes plus tard, il va être ami avec tout le monde. » Tu sais, j'admire ça beaucoup. Moi, j'ai jamais été capable de faire ça et je ne serai jamais capable de faire ça. Puis de voir mon autre qui, dans le sport, développe des aptitudes que moi, j'ai pas eues, je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça vraiment le fun.
Qu'est-ce que tu aimerais que tes enfants développent, toi? Que t'as pas, mettons, comme personne ou que t'aurais aimé développer?
Bien, ils en ont développé plein. Les trois me disent toujours, ils ont chacun leur force, là, puis les trois me disent toujours, je suis bien meilleur que toi dans telle affaire ou dans tel aspect. Les trois sont très confiants de me dépasser dans certaines choses. Puis je leur dis tout le temps, mais j'espère que t'es meilleur que moi. Je t'ai pas mis au monde pour que tu sois mon égal ou moins bon que moi. Là, je m'attends à ce que tu me dépasses dans bien plus qu'une affaire. On met pas des enfants au monde pour qu'il y ait les mêmes difficultés ou les mêmes embûches ou les mêmes défauts que nous.
Et pour qu'ils nous aiment. On les met pas au monde non plus pour qu'ils nous aiment. Non, mais on les met au monde pour les aimer puis essayer de les pousser.
Oui, mais on aime ça quand ils sont meilleurs que nous, c'est certain. Alors moi, quand ils me disent ça, ils savent pas, mais ils me font le plus beau compliment. Quand ils me disent « Je suis même meilleur que toi en informatique. Parfait. Maman, je cuisine vraiment mieux que toi. Parfait, c'est ce que je m'attends. »
Les qualités que tu chéris le plus chez un adulte, puis pour lesquelles tu as lutté et que tu luttes encore dans l'éducation de tes enfants?
L'empathie, l'altruisme, penser aux autres. Mmh. Vraiment, là, ça, c'est fondamental. Pour moi, c'est une qualité essentielle. Je trouve que c'est essentiel de savoir se mettre dans la peau de l'autre. Donc, l'empathie, là, savoir se mettre dans la peau de l'autre, ça change le ton qu'on prend pour faire les choses, ça change notre approche, ça change aussi notre sensibilité à l'égard de ce qu'on peut susciter comme émotion chez les autres. Quelqu'un qui est très égocentrique, qui pense juste à lui, je trouve que c'est le pire défaut qu'il n'y a pas. Alors, constamment, bien, mes enfants sont très empathiques. Et c'est pas parce que je leur ai nécessairement martelé, parce qu'on dit hein, que nos enfants absorbent beaucoup de nous, mm-hmm. mais par imitation. C'est pas parce qu'on leur répète « sois discipliné » que la discipline va rentrer. C'est à force de nous voir disciplinés qu'ils le deviennent. Ouais. Je pense que l'empathie, ils l'ont bien développée, mais dès qu'il y a un écart, puis qu'il y a un retour à l'égocentrisme, je le nomme, ça vient me chercher. Je leur dis non, c'est super important. Ça va te servir toute ta vie, l'empathie.
C'est dur à développer parce que souvent, c'est ça, comme tu dis, ça vient d'un foyer qui a ces capacités-là, en fait, à l'exploiter. Mais pour le montrer puis pour le pratiquer chez tes enfants, ça a été quoi les étapes?
Bien, c'est sûr que on apprend ça dans une fratrie. Donc, un enfant unique, ça va être plus difficile à développer. Là, moi, j'en ai trois, donc ils ont pu développer ça entre eux. Et c'est toujours à repratiquer et à reconsidérer avec l'évolution, avec l'âge.
Même adulte, là, même pour nous. Là,
ben oui, absolument.
Oui, mais quand ils font des réflexions de « Hey, c'est pas drôle, il y a un ami dans ma classe ou il y a un ami à l'école qui a vécu telle chose » ou quand je les vois venir se consoler entre eux ou tout ça ou pas vouloir s'excuser quand ils ont blessé un frère ou une sœur. C'est sûr que c'est toujours des choses qui me ramènent toujours à l'empathie. Je leur dis non, c'est important comment t'as fait sentir l'autre. Tes propos ont été blessants, ton agissement n'était pas correct, tu penses pas au reste de la famille ou faire du bruit dans la maison. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui est encore au lit le soir, le matin, puis que quelqu'un est très bruyant dans la maison, c'est une question de respect. Pense à l'autre. Quand toi, t'es couché, c'est le fun quand tout le monde marche un peu sur le bout des pieds, claque pas les portes. Donc, ces petits gestes-là font que plus tard, en milieu de travail, plus tard à l'école, plus tard, peu importe, avec leurs amis, avec leurs conjoints aussi, ils vont devenir des bien meilleures personnes, je pense.
Ah, puis à regarder ce qui se passe dans le monde des adultes actuellement, là, si on peut tous miser sur l'empathie pour nos enfants, ils vont être bien meilleurs que nous autres, à la radio, sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Il faut que ça revienne un petit peu. Là,
oui.
Le phénomène de se mettre à la place de la personne qui ne voit pas les choses de la même façon que
c'est
nous
vrai.
Autres. On dialogue plus, on s'ostine. Faut que le dialogue revienne.
Et tu fais bien de mentionner les réseaux sociaux parce que les insultes sur les réseaux sociaux puis les qualificatifs de dénigrement, là, on oublie des fois que derrière l'idiot, la conne qu'on vient d'appeler idiot ou conne sur les réseaux sociaux, ben, y a un père ou une mère de famille. Y a un époux, un conjoint, il y a quelqu'un qui prend soin de son parent.
Qui fait souvent son mieux.
Ben oui, qui fait de son mieux puis qui traverse toutes sortes d'épreuves comme on va tous traverser là, la maladie et les difficultés de la vie.
Puis juste dans nos comportements, moi ce matin, quand je suis arrivée, j'étais pressée. Puis en avant de moi, tu avais un homme, je présume que c'était sa mère qui était là, puis c'était long. C'était long dans le cadre de porte, c'était long entre eux, ça jasait, ça stoppait, puis là, il fallait que je passe le petit tapis, puis c'était étroit, puis là, j'arrive à l'ascenseur, puis là, finalement, ils sont là, par la gentillesse, normalement, ils sont là en premier, tu les laisses gérer l'ascenseur, mais là, c'est quel piton, puis arrive dans l'ascenseur avec eux, je pointe le 5, je me dis, bon, Pascal, à quel étage vous allez? Au 5, parfait. Là. Et le monsieur s'adresse à moi tellement gentil, puis j'ai attendu, mais ça m'a gossé parce que j'étais pressée. Fait que c'est par rapport à moi. Hey, calme-toi, il n'y a personne qui est en train de mourir en haut, là. Tu vas arriver à temps à job. Puis, j'ai regardé dans la main de la femme. Il y avait un papier, ce qu'on partage ici, là, des bureaux avec d'autres entreprises, qui était écrit testament.
Huh. Ouais.
Et que ça m'a ramené à base. Parce que moi, là, je présume maintenant qu'ils étaient allés ensemble pour des technicalités de parents, maman, enfant, maman, pour un testament. Ça, ça veut dire qu'on est en train d'avoir une journée quand même difficile à penser à le après, à avoir d'en face qu'il n'y aura pas possibilité d'être toujours ensemble. Puis ça m'a ramené à la base, là. Puis je me suis sentie mal d'avoir probablement fait sentir par mon non-verbal que « Oups, OK, on avance, on y va. » Puis c'est vrai que des fois, là, ces gens-là, t'es côtoie dans l'ascenseur, au volant ou autre, puis tu sais pas c'est quoi qu'ils ont dans la tête, puis ils peuvent être tannants de gosser, mais crime, qu'est-ce qu'ils vivent, eux, à ce moment-là?
Je comprends très bien ce que t'expliques, puis c'est une belle histoire. Par contre, la même madame à l'épicerie qui gosse sa caisse autonome, aucune excuse! aucune excuse.
Ben oui, mais là, la caisse est en train de la traiter de voleuse parce qu'elle n'a pas senti que le brocoli était rendu sa plaque, pauvre petite.
Hey, si ça... tu sais pas comment ça marche, va faire la file avec un humain, OK?
C'est pas toujours ça. D'un coup, qu'elle a vécu une dure journée. Hey, c'est drôle, dans le temps, avec un collègue, on avait testé dans l'ascenseur diverses situations. Il y en avait une que c'était une chicane de couple, vraiment sonore. Une que c'était lui qui annonçait qu'il avait le cancer, qui venait de savoir qu'il avait le cancer puis qui en parlait à la personne dans l'ascenseur. Puis l'autre, c'était du small talk. Hey, sortir là, d'avance, avant l'étage qui avait été poinçonné par quelqu'un juste pour du small talk, mais versus toute l'empathie, puis le fait de rester des étages supplémentaires pour jaser de l'annonce de cancer, qui est super malaisante parce que tu connais pas personne, ça m'avait beaucoup redonné foi en l'humanité, puis beaucoup fait rire aussi, parce qu'il paraît que parler de température, ça gêne le monde. Là.
J'aurais pas pu participer à ton expérience, parce que souvent, quand je vois qu'il y a quelqu'un dans l'ascenseur, je continue mon chemin, puis je prends les escaliers.
Dernier sujet, parce que finalement, on est allé dans une super discussion, en passant 88-971-1021 encore sur Twitch, si vous voulez commenter, mais il faut en parler, Denis, il faut en parler, Jacinthe-Ève. On a appris ce matin qu'on est les premiers dans quelque chose aussi dans la capitale nationale. On est des champions, on est des combattants, on est des battants, on est du monde qui, par la province, rayonne vraiment pour une fierté. Mais on est les premiers pour le Crystal Meth. Si semble-t-il qu'on est la capitale du Crystal Meth. Les policiers de la SQ en ont saisi plus de 63 kilos l'an dernier. Puis, je veux pas diaboliser que le Crystal Meth. Mais il y a d'autres drogues qui existent. Il y en a certaines qui, par leur composition, puis là, la coke et du fentanyl de plus en plus, on le voit et tout, ont des impacts, mais peut-être pas destructeurs comme ceux du Crystal Meth. Mais ça parle aussi de ce que les gens sont capables d'aller chercher pour se droguer. Crystal Meth, c'est moins cher. Crystal Meth, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de la scrap. Et on est les gens qui, soit en fait le plus circulé ou en consomment le plus, selon cette nouvelle-là.
Bien, évidemment, c'est triste, mais en même temps, on ne peut pas dire que c'est surprenant. L'itinérance, les problèmes de santé mentale, les problèmes de consommation, c'est tous des indicateurs qui sont en hausse présentement dans la région de Québec. Puis je prends souvent l'exemple, puis je sais que vous n'y allez pas toutes à Saint-Roch, puis des fois, vous êtes tanné qu'on en parle, puis ainsi de suite, mais c'est le cœur de la ville.
Ça explique peut-être des choses, là, cette nouvelle-là.
Ah, absolument, absolument. Quand tu vois des gens qui se désorganisent, qui se parlent tout seuls, qui font l'hélicoptère avec le bras à 10 heures le matin. Je connais rien en drogue, mais j'ai compris, en regardant une couple de saisons de Breaking Bad, que le Crystal Meth, c'est une drogue qui désorganise et pas à peu près. Puis tu l'as dit, hein, les gens veulent buzzer sur quelque chose, puis quand ils n'ont plus une scène, ben ils achètent de la scrap. Ça donne des cas d'overdose, ça donne des histoires de désorganisation, des policières se font blesser. Ça fait partie de l'environnement à Québec pas mal plus qu'il y a 5-10 ans. Ça, il n'y a absolument personne qui peut le nier, puis c'est malheureux.
C'est une personne super bien intentionnée. En fait, dans la vie en général, consomme ça peut devenir une toute autre personne. On s'entend avec des comportements erratiques, avec des comportements super dangereux et violents. Ça ajoute à la sécurité de tous, à la sécurité de la personne qui en consomme. Mais il y a beaucoup, beaucoup de leçons à tirer, puis je ne sais même pas encore lesquelles tirer de ce qu'on a su ce matin, mais le Crystal Meth comme étant... Maintenant, notre nouvelle réussite dans la capitale nationale, il me semble qu'on se serait attendu à d'autres choses, là.
Mais en même temps, c'est juste la suite du constat alarmant. Puis je sais que les commerçants ont fait beaucoup de bruit dans la dernière année pour essayer justement d'avoir de l'aide. On voit là que du côté de la Ville de Québec, on s'est réveillé, on fait des rencontres, on a promis des solutions pour Saint-Roch au mois de juin. C'est long. On aurait peut-être dû être un peu plus proactif. Puis je comprends qu'on va tirer des leçons de la pandémie et ainsi de suite. Puis c'est facile rétroactivement de dire on aurait dû voir venir ces problématiques-là.
C'est ça.
La prochaine fois qu'on va en avoir, on s'en souhaite pas d'autres, mais la prochaine fois qu'on va se retrouver dans ce genre de contexte-là, là, on va être en mesure de savoir qu'est-ce qui s'en vient pour la suite des choses. Beaucoup de gens qui se désorganisent parce qu'on change le beat routinier d'une vie normale, puis il reste des séquelles de ça, il reste des conséquences de ça. On va être mieux outillés, j'espère, pour la prochaine, si prochaine il y a.
Alerte peut-être collectivement aussi. Ça avait été dans notre face, le Crystal Meth, on n'aurait pas été surpris ce matin. Ça a été dans notre face d'une autre manière, du genre, les comportements, c'est étrange, l'itinérance change un peu, ça devient un petit peu plus particulier sur Saint-Joseph, plus de présence policière, le crime organisé, les gangs de rue, qu'est-ce qui se passe, c'est particulier, mais ça n'a pas été dans notre face du genre, je te donne une pierre de Crystal Meth face à l'édifice ici au 815 Le Bourgneuf.
Non, mais il y a la violence des gangs de rue d'une part, mais il y a aussi ces histoires d'un sans-abri qu'on retrouve mort, qui s'est chicané avec un autre, puis ça finit en coup mortel. Tu sais, des histoires...
Quand t'avances, c'était pas ça, là?
Non,
exact. Il y avait de l'entraide entre eux.
Tu relis... Tu sais, tu accumules ces histoires-là qui font pas partie de la guerre de gangs actuelle, puis tu vois des soubresauts de drogue qui désorganisent, de gens qui sont désorganisés à cause d'une consommation erratique de produits dangereux. C'est le résultat, c'est une conséquence, c'est une résultante, mais tous les symptômes d'une consommation qui a augmenté pour le crystal meth sont là à Québec depuis quelques années déjà.
Puis je dois quand même souligner que c'est partout dans la province. Là, on voit Montérégie, Montréal, Abitibi, Témiscamingue, Laurentides, Chaudière-Appalaches. C'est un peu partout au Québec qu'on a fait ces saisies-là, mais à Québec, c'est vraiment l'endroit par excellence, malheureusement, pour la présence de crystal meth.
C'est peut-être un indicateur aussi que la Sûreté du Québec est extrêmement efficace dans la région, parce qu'oubliez pas que ce qui est saisi, ça veut pas dire que c'est le reflet exact de ce qui est produit.
Excellent.
Alors, moi, quand je vois que à Montréal, il y a eu 11 saisies l'année dernière, mais 34 ici dans la région. C'est peut-être simplement que notre service de police est plus efficace ici à Québec qu'à Montréal. Ça veut pas dire...
Intéressant.
Donc, bravo à la Sûreté du Québec. Tant mieux si on a un service policier ultra efficace. Faut le souligner, hein?
Oui.
Quand nos services publics fonctionnent, faut le dire.
Quinte, oui, le verre est rendu à moitié plein.
Quelqu'un pour finir l'intervention qui dit « En tant qu'intervenant en santé mentale, je crois qu'il faut diaboliser crystal meth, mais peut-être avoir un peu de compassion pour ceux qui sont pris avec une dépendance de cette horrible cochonnerie. »
Pas
parce
facile.
Que après une conso, parfois, tu viens accro, puis ouais. Ça aurait mené à beaucoup de désorganisation. Hey, merci beaucoup, Denis Gravel. C'est le dernier pit stop.
Ben oui.
On te retourne à tes habitudes de mâle alpha, mais juste dans le retour, parce que t'en auras un autre lundi qui revient ici en studio.
En passant, oui, Pierre-Aude va être avec nous autres cet après-midi, mais en studio avec nous autres, en chair et en os,
va être ici.
À Québec, lundi après-midi, dans Gravel dans le retour. Fait que on a bien, bien hâte. On se voit à peine une fois par année quand on est chanceux. Puis ce fois-là, c'est lundi.
Bon, ben on va noter ça à notre calendrier. Pierre-Aude qui va être en présentiel, comme on dit dans le temps de la COVID. Hein? Ça a tellement été populaire. En présentiel dans Gravel dans le retour, lundi prochain. Hey, Dan, bonne journée. C'est tout ce que tu mérites.
Bye-bye.
Bye-bye.
Bye.
Pour ceux qui sont à l'écoute, vous le savez, on a un super concours pour le Super Bowl. On est vraiment, vraiment, vraiment contents d'avoir ça, en fait. Il y en a qui vous intéressent des concours, je suis sûre, à l'année. Mais celui-là va chercher une genre de fibre de sportif puis de fan de spectacle. Pourquoi? Parce que on vous garde pour le Super Bowl, mais ça reste, hein, veux, veux pas. Ce que vous pouvez gagner, c'est 3 250 $ d'équipement, d'électronique de chez Stéréo Plus et Audiolite. C'est quand même une référence assez connue à Québec, là. Et on le fait en amont du Super Bowl. Donc, c'est la nouvelle télé Samsung 65 pouces qui vient de sortir cet automne. Une barre de son ultra mince. Elle est sexy, elle est belle, elle est le fun avec le sub pour remplir vos oreilles de sons de qualité pour cette game-là de football américain qui nous attend en février. Et ça va être livré directement chez vous le samedi avant le Super Bowl. Donc, vous allez pouvoir le tester la veille. Et chaque jour, on vous donne des indices pendant la programmation. Vous, votre seule responsabilité, c'est d'aller acheter la bouffe, la faire triper avec vos amis, puis les inviter chez vous si vous êtes auditeur de Boulevard 102.1, parce que ça se peut que ça soit toi qui ait le beau système de son complet avec la télé dans ton salon. On en fait une genre de promo touchdown dans ton salon. Puis aujourd'hui, Dan, du garage à Dan, a choisi quelque chose à ajouter dans le salon. Puis c'est l'indice, en fait, que vous devez aller inscrire au blvd.fm. C'est un téléviseur pour l'extérieur. Puis, lui, il en veut un dans son salon, mais il en veut un dans son garage, puis il en veut un aussi à l'extérieur pour pas manquer son sport. C'est l'indice que vous pouvez aller entrer au blvd.fm. Il n'y a pas de nombre de participation à respecter. Vous participez autant que vous le souhaitez. Et on revient dans un instant, vous êtes dans Marceau le midi avec Jacinthe Varel et moi-même Pascal Cévé. Le garage à Dan.